Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, ouais, Leslie, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Super Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.
Allez lui. Allez mon petit bonhomme.
Et salut les sportifs, c'est la 118e émission de l'Instant Sport avec nos chroniqueurs qui ont fait des malheurs aux pronostics de la Ligue des Champions. En phase suivante qui vous avez écouté, vous n'avez peut-être pas gagné beaucoup d'argent, alors on reviendra dessus après la pause musicale. Aujourd'hui avec nous, Laurent Julien, Julien Gall, Patrick Biancone et Nicolas Thomas. Bonjour messieurs.
Salut Ludo, bonjour.
Alors, nous avons des invités aujourd'hui. Contrairement à ce qu'a pu dire Laurent à la dernière émission, ils ne font pas du trial, mais des trails et des raids multisports avec nous. Maxime et Ben de Lozère Sport Nature. Bonjour, messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors, messieurs, on est ravis de vous recevoir pour parler un peu de votre équipe, pour parler de ce sport. Des raids, des trails, expliquez-nous peut-être déjà, pour ceux qui ne connaissent pas du tout votre sport, la différence entre les raids et les trails, s'il y en a, ce que c'est, finalement.
Alors, en effet, il y a des différences. Bon, il y a surtout des points communs aussi. Les points communs, c'est que ça se passe en pleine nature. C'est des sports d'endurance. Après, les différences, c'est que le trail, c'est une discipline qui se pratique uniquement en course à pied. C'est de la course à pied sur des parcours qui sont balisés. Et tout le monde fait le même circuit. Alors que le raid multisport, c'est des épreuves qui se font en équipe. Des équipes de 2, de 3 ou de 4. Les concurrents restent tout le temps ensemble en équipe. Et il y a différentes activités, donc de la course à pied, mais aussi du VTT, du kayak, il peut y avoir la spéléo, du canyon, du ski l'hiver. En fait, toutes les activités de pleine nature peuvent être proposées dans le cadre de ces épreuves-là. Et l'autre différence aussi, c'est que pour beaucoup, le raid multisport se pratique en orientation, donc les parcours ne sont pas balisés, il faut orienter à partir d'une carte qui est fournie par l'organisateur.
Alors vous faites les deux ? Vous faites des raids et du trail ?
Oui, de toute façon, quand on fait du sport nature, on participe un peu à toutes les épreuves qu'il y a dans le coin, donc on participe oui, au raid et au trail.
Alors, parlez-nous de vos dernières courses, donc on en a un peu parlé dans cette émission, vous a suivi. Alors, si je prends vos deux dernières grandes courses, il y a eu La Réunion, qui était la finale des championnats du monde, et juste avant, la Croatie, c'est ça ?
La Croatie, c'est une autre équipe là, de l'association qui est partie, c'est les jeunes qui participaient à leur première course longue à 4. Et nous, du coup, on revient de La Réunion sur les championnats du monde, où on a terminé sixième.
Alors, c'est que c'est...
Et en fait, ce que tu veux dire, c'est que l'année dernière, ils étaient aux États-Unis plutôt.
Et l'année dernière, ils étaient aux États-Unis, c'est vrai, voilà, c'est absolument. Cette
Après
course à La Réunion.
Remporté les championnats de France, c'est ça ?
Alors, cette année, ouais, c'est un peu compliqué. Cette année, on a gagné les championnats de France avec Benjamin et Nicolas. Et Rudy et Fanny, qui couraient avec moi à La Réunion, ont gagné aussi les championnats de France en équipe mixte. Et l'an dernier, on avait gagné une manche de Coupe du Monde qui avait lieu en France, qui nous a permis de courir les championnats du monde aux États-Unis.
Voilà. À La Réunion, là, vu que c'était la dernière course, combien de kilomètres sur combien de temps ?
430 kilomètres, avec 17 000 mètres de dénivelé annoncé. Et on a mis 135 heures.
135 heures, comment ça se passe ? Vous bivouaquez, vous mangez des scorpions que vous trouvez sur place ?
Alors, vous trouvez des hôtels facilement là-bas ? Comment ça se passe ?
Non, on ne dort pas dans les hôtels. Là, sur cette course, on avait un crédit de temps de 12 heures de pause à prendre. Donc 12 heures obligatoires de pause ou de sommeil. Et le reste du temps, le but, c'est d'avancer et de s'arrêter le moins possible, parce que le chrono ne
Qui le vérifie, le temps de pause ?
Alors, les temps de pause, on les prend à des CP, donc des checkpoints, ou à des transitions où on change d'activité. Et à ce moment-là, en arrivant, on signale à un bénévole combien de temps on veut s'arrêter, et il nous le décompte de nos 12 heures de pause obligatoire.
Mmh. 12h, c'est ce que tu as dormi vendredi soir, Nico. Bah, ça, j'en parlerai de cette soirée peut-être dans cette émission. Très belle soirée pour toi. Oui, c'est assez complet en fait comme sport parce que donc c'est physique. Il y a également de l'orientation. Il y a plusieurs qualités qui sont nécessaires pour pratiquer ce sport.
Ben oui, la première qualité, c'est effectivement d'être très polyvalent. Ça sert à rien d'être très fort dans une activité et avoir aucune maîtrise des autres. Il faut vraiment être très polyvalent. Ce qui est important aussi, c'est d'être assez complémentaire dans l'équipe, puisque c'est des équipes, pour les Coupes du Monde ou les Championnats du Monde, c'est des équipes de 4, dont une féminine obligatoire. Donc, il faut être polyvalent et complémentaire au sein de l'équipe. Et la polyvalence, elle est aussi importante parce que selon les organisateurs, selon les manches, les épreuves qui vont être proposées sont très différentes. Aux États-Unis, l'année dernière, par exemple, en 90 heures, on a parcouru plus de 700 km. Donc, c'était très rapide. C'était les parcours roulants. C'est des parcours assez rapides. On sortait rarement des chemins. À La Réunion, cette année, en 40 heures de plus, ils ont parcouru quasiment moitié moins de kilomètres parce que c'était très technique, très engagé. Il y avait très peu de chemins. Il y avait beaucoup de sections avec des cordes. C'était une épreuve très technique.
C'est pas dangereux aussi ? Parce que courir de nuit ou enfin on connaît un peu la Réunion, c'est des milieux escarpés.
Ça peut être dangereux effectivement. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser toutes les activités. Il y a beaucoup d'autonomie. Les équipes sont en autonomie. Donc globalement, c'est des équipes qui sont quand même préparées à tout ça. Après, il peut y avoir des accidents. Ceci dit, il y a assez peu d'accidents compte tenu de la difficulté et de l'engagement de ce genre d'épreuve.
Alors on m'a dit que vous avez eu un petit problème avec une balise sur cette course-là.
Du coup, sur une des sections, on a cherché une balise. Alors, il y a quasiment toutes les équipes qui l'ont cherché à un moment, cette balise, à part les trois premières qui sont tombées assez rapidement dessus. Nous, on a perdu 3 heures sur cette balise. Alors, sur une course de 135 heures, finalement, c'est pas énorme. Mais ça nous a empêché ensuite de jouer la quatrième place finale.
Dis-moi, Maxime, les balises, on est obligé de toutes les trouver ou on a droit à une ou deux?
Un joker. Joker.
On est obligé vraiment de la trouver pour continuer.
Sur cette course, il faut passer par tous les points, par toutes les balises.
D'accord. Parce que sur certaines courses, on peut faire. Ça décompte du temps, non? Il n'y a pas une histoire comme ça?
Il peut y avoir, oui, sur certaines courses, ce sera une pénalité de temps si on loupe des balises.
Mais là, non, quoi.
Là, non. Il fallait tout prendre.
Niveau entraînement, ça doit être quelque chose quand même, hein, parce que c'est extrêmement physique. Vous entraînez beaucoup tous les deux ?
Alors, ça dépend aussi un petit peu des personnes. Par exemple, Maxime s'entraîne beaucoup parce que c'est un peu son métier, quoi, hein, de s'entraîner. Non, je rigole. Non, ça dépend un peu des athlètes.
J'ai vu courir sur le cos et j'avais honte. Moi, je suis remonté dans ma voiture.
Eh ben oui, ça m'étonne.
Après moi j'ai plus de contraintes familiales donc je m'entraîne un peu moins. Bon, ça se ressent aussi sur les épreuves lorsqu'on court ensemble parce qu'il est souvent obligé de m'attendre ou de me tracter. On n'a pas un entraînement planifié très spécifique. On va préparer effectivement lorsqu'on prépare une Coupe du Monde ou un Championnat du Monde, on va le préparer de façon un peu plus spécifique en faisant des entraînements plus longs. Là par exemple Nicolas et Maxime donc qui étaient au Championnat du Monde ont axé leur travail sur des entraînements longs avec des gros sacs à dos parce qu'il y avait beaucoup de matériel à transporter. Ils avaient des sacs à dos qui tournaient entre 12 et 20 kilos selon les épreuves. Donc ils sont un peu orientés sur un entraînement de ce type-là. Après, on va faire du vélo, de la course à pied, mais il n'y a pas un plan d'entraînement type, on va dire, qui va permettre d'être efficace.
Avant de passer la parole à Patrick, juste une dernière question sur l'entraînement. Est-ce que vous aviez le circuit, est-ce que vous connaissiez le circuit de La Réunion avant? Vous le découvrez sur place?
Alors là, ça aussi, c'est bien spécifique de Red In France, qui était support des championnats du monde cette année. On a les cartes au départ seulement. On n'a aucune idée du parcours avant de partir. On connaît juste l'enchaînement des sections, mais on ne sait pas où on va aller.
Okay. Non, on est sur le même piédestal, c'est aussi bien.
Oui, mais c'était, c'était pour savoir. Patrick ?
Non, moi j'ai connu Maxime, bien évidemment, sur le Marvejolman, où chaque année, où il se présente au départ, il est dans les meilleurs losariens, donc je l'ai souvent interviewé à cette occasion-là.
Dans les meilleurs tout court.
C'est vrai. Et j'aimerais savoir s'il a fait une croix définitive sur la course sur route pour vraiment se spécialiser sur le raid et sur le trail, ou si il va y revenir et quelles sont un peu les différences entre les deux, parce que même si tu cours, moi je suis pas un spécialiste, mais d'après ce qu'on dit, c'est quand même deux mondes différents entre le macadam et les chemins.
Ouais, c'est sûr, c'est quand même deux préparations bien différentes. Alors comme je suis un peu touche à tout, je pense que je laisserai pas tomber ces courses-là, parce que quand on est ici et que il y a ces organisations, on a toujours envie de participer, mais mais les deux sont pas vraiment compatibles. Ouais, je pourrais pas préparer les raids et être aussi performant entre guillemets qu'avant sur les courses plus rapides.
Alors, on a parlé des jeunes tout à l'heure. C'est une association, Loser Sport Nature, qui comporte combien de membres et donc combien de jeunes?
Ben, en effet, ouais, c'est une association. L'idée de l'association, elle existe depuis 15 ans maintenant. C'était de regrouper un peu les gens qui pratiquent le raid multisport sur le département, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de fédération, de club, donc c'était très peu structuré. Donc c'était de regrouper un petit peu tout ce monde-là. Et ben, depuis 2003, l'association a un peu grossi. Il y a des années où on est plus nombreux que d'autres, pardon. Il y a une quarantaine de membres, on va dire, actifs dans l'association. Mais après, on propose également des entraînements qui sont ouverts à tout le monde. Et là, il y a 40 personnes de plus qui viennent régulièrement participer à ces entraînements qui sont ouverts à tous. Et donc, ben, l'association, c'est vrai que bon, il y a de tout en termes de niveau. Il y a des gens qui pratiquent beaucoup, des gens qui participent. Voilà, on vient d'en parler aux Coupes du Monde. Mais il y a aussi des gens qui participent à quelques épreuves dans l'année avec une idée plus de loisirs ou en tout cas de se faire plaisir sur ces épreuves-là. Et puis c'est vrai qu'il y a depuis quelques années une équipe de jeunes, donc qui sont 5 ou 6 jeunes, qui deviennent de plus en plus performants, qui ont fait des bons résultats au niveau national sur des épreuves plus courtes, et qui se sont lancés, on va dire, un petit peu cette année dans le grand bain des raids aventure, des raids longs, et donc qui ont participé à une manche de Coupe du Monde à la Croatie.
C'est de combien de kilomètres à combien de kilomètres ces raids, ça commence à combien?
Bah, ça peut être très court, hein. Il y a des raids découvertes qui vont faire quelques dizaines de kilomètres, hein, 20-30 kilomètres, avec une épreuve à pied, une épreuve en vélo. Ça peut être même un petit peu balisé pour les néophytes. C'est des épreuves qui sont très accessibles. Et puis voilà, et après il y a des épreuves qui vont durer un peu plus longtemps, un jour, deux jours, et puis ça va jusqu'aux épreuves internationales qui durent plusieurs jours en non-stop.
Au niveau des raids, n'oublions pas qu'il y en a un quand même organisé chaque année en Lozère depuis maintenant, je sais pas, ils ont fêté la 10e, hein. il y a pas longtemps, c'est le Géodatron. Donc, bon, d'ailleurs, vous y participez régulièrement et moi, je pense que tu avais gagné, non, une fois?
Oui, j'ai gagné 4 fois.
Voilà, 4 fois, donc c'est bien ça. C'est bien ce qui me
semblait. Attends que Nico s'inscrit,
donc,
tu vois.
Bon, ouais, c'est vrai que la Lozère se prête aussi très bien à ce genre bien, d'activité, aussi bien des raids que des trails. Il y en a énormément, hein, je trouve. Et donc, c'est vrai que c'est, ben, la Lozère, c'est un cadre de jeu idéal pour ses spécialités.
Alors, il y a la course, il y a le vélo, il y a le canoë aussi, non?
Il peut y avoir le canoë. En fait, c'est vraiment les organisateurs qui décident du format et des activités qu'ils proposent. Il y a des fois des épreuves un peu plus originales, on va dire, qui sont proposées. Hein. Des fois du tir à la sarbacane ou des épreuves, je sais pas. On peut voir à peu près tout sur les. C'est vraiment l'organisateur qui choisit les épreuves, les formats, les supports d'orientation qu'il propose. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans ces activités-là, c'est qu'il n'y a pas deux courses qui sont identiques. C'est vraiment des formats différents à chaque fois. Quoi.
Nico.
Et justement, par rapport à ça, vous disiez que vous découvrez le parcours, donc, quand vous arrivez. Est-ce que les épreuves, vous avez une idée à l'avance des épreuves qu'il va y avoir pour vous préparer en fonction? Ou les épreuves, par exemple, si le canoë débarque, vous l'apprenez le jour du départ de la course?
Non, là, sur les championnats du monde, on avait on connaissait l'enchaînement des sections et les distances, mais par contre, on savait pas où on allait passer. Voilà, on a les cartes au dernier moment, mais on a l'enchaînement des sections et les disciplines.
Du coup, ça vous permet de préparer. Du coup, il y a dû avoir une prépa canoë, je suppose.
De prendre la pagaie.
Ouais, voilà, parce que déjà au niveau du matériel, il faut préparer tout le matériel avant la course, donc que ce soit pagaie, gilet, quand il y a du canoë, et puis aussi dans l'entraînement, ça permet de se préparer à ça. Mais après, il y a quand même souvent canoë, VTT et trek. Voilà, sur les raids longs. Ça fait quasiment toujours partie des activités.
Alors du coup, quand ces canoës, les canoës sont fournis là-bas par les organisateurs ou il faut faire suivre son matos? Comment ça se passe?
Pour les canoës en général, c'est fourni. Ouais. Le bateau est fourni, mais pas tout le temps. Il y a certaines épreuves où on peut amener son bateau. Ouais. Et après, tout ce qui est pagaie, gilet et casque, ça, c'est, par contre, c'est nous qui prenons.
Ouais. Ouais, d'accord. Et, alors, et les vélos, bien sûr.
Sur une équipe à 4, hein, il faut que les 4 arrivent au fini. Finissent tous les 4 ou est-ce qu'on peut avoir un abandon?
On peut en cacher un.
Au niveau du règlement, comment ça marche?
Au niveau du règlement, non, il faut finir à 4 hein, pour être dans le classement, on va dire. Après, ça arrive qu'il y ait des équipes qui continuent à 3 en demandant à l'organisateur voilà, de pouvoir continuer. Mais sinon, pour être dans le classement,
classés,
il faut... Non, voilà, ils ne sont pas classés.
D'accord. Et donc, vous êtes tous les 4 se suivent ou comment? Il faut arriver tout le temps en même temps, c'est ça? Il y en a un qui peut partir. Non, c'est pas sur le premier, c'est sur le temps est pris sur le,
ouais,
sur
ouais,
le quatrième.
Il est interdit de se séparer. Ouais. Il faut D'accord. qu'on soit toujours à 4 ensemble.
C'est bien, c'est solidaire du coup. Ouais. Il faut.
Ouais, c'est un sport d'équipe. C'est ce qui est intéressant aussi dans le raid, c'est qu'on transforme des sports qui sont plutôt individuels en un sport d'équipe.
Nico.
Du coup, par rapport à l'organisation que parlait Laurent, voilà, d'amener son matériel, ben, souvent comme aux États-Unis, à la Réunion, à l'autre bout de la planète, je suppose que ça a un coût. Comment fonctionne l'association? Est-ce que c'est des aides? Est-ce que c'est des investissements personnels? Je suppose que faire une étape des championnats du monde, ça doit avoir un certain prix. Donc, comment vous faites? Comment vous êtes soutenu?
Ben, en effet, ouais, c'est des coûts assez importants. Une manche de Coupe du Monde ou un championnat du monde, donc une épreuve à l'étranger où il y a des billets d'avion à prendre, c'est un budget entre 10 et 15 000 euros avec l'inscription, un peu d'hébergement avant, après, le transport et puis des fois un peu de matériel spécifique qu'il faut acheter en plus. Donc, on a quelques aides des collectivités locales qui nous soutiennent comme elles peuvent. On a également quelques aides de partenaires privés, mais c'est vrai que c'est assez minime. L'association essaie aussi de nous accompagner là-dedans, mais voilà, il y a un gros investissement personnel sur une épreuve avec un budget, on va dire, à 10 000 euros. On va avoir 2-3 000 euros de soutien, et puis le reste, ça va être de notre poche, quoi, à se répartir sur les 4 concurrents, quoi.
C'est vrai que c'est étonnant, et c'est bien de le préciser, parce que on voit quand même dans cette explosion sur ces sports-là, ben, y a des vedettes maintenant, et il y en a qui en vivent. Ils vivent des raids, ils vivent des trails, donc là c'est vrai que eux ils sont absolument pas dans cette perspective là où c'est eux qui sont obligés de payer. Au contraire, c'est les sponsors qui payent tout, et en plus ils ont des contrats privés pour des marques, et donc c'est vrai que ils en vivent, et pour certains ils en vivent très bien.
Ils doivent être très peu nombreux quand même,
ouais,
j'imagine.
Mais, ça commence un peu. Et, bon,
oui. Ouais, c'est quand même très exceptionnel. Ça représente quelques athlètes dans la masse des participants ou des gens qui pratiquent ces activités-là. C'est un petit peu comme au foot, ceux qui sont multimillionnaires. C'est par rapport aux pratiquants général, c'est vraiment une infime partie.
Ouais, on y arrivera parce qu'à force, j'ai vu, il y avait eu sur l'équipe 21, il y avait eu un super reportage où vous y étiez. Donc petit à petit, ça fait parler un petit peu, il va y avoir des sponsors, c'est un sport qui va évoluer publiquement.
Julien.
Ouais, pour vous rappeler que je suis dans l'émission quand même, je vais vous poser une question. Tout à l'heure, vous évoquiez le fait que c'était un sport individuel qui se transforme en sport collectif, mais sur le point de vue individuel, est-ce que quand vous participez à des courses comme ça, vous marquez des points individuellement? Est-ce qu'il y a un classement comme ça peut se faire dans d'autres sports? Je pense par exemple au tennis où il y a le classement ATP... avec un nombre de points à gagner en fonction des courses?
Non, pour le coup, c'est vraiment un sport d'équipe. Donc, c'est l'équipe qui va marquer des points. Au niveau du classement mondial, c'est l'équipe qui marque des points. Après, l'équipe ne doit pas forcément être composée toujours des quatre mêmes participants. On a droit jusqu'à 8 concurrents différents. Donc, on peut avoir 8 athlètes différents qui participent à différentes Coupes du Monde et qui marquent des points pour une équipe donnée. Mais c'est vraiment des points par équipe. Ouais.
Vous avez dû en prendre plein les yeux, là, la Réunion, pendant autant de temps, avec les levées, les couchers de soleil, ce paysage formidable.
Ouais, c'était incroyable, ouais. Mais de toute façon, dans ces courses-là, on fait un peu ça pour ça, justement, s'il y a des moments forts, dans des endroits où on ne mettrait pas les pieds normalement, et puis que ce soit en pleine nuit, ou lever de soleil, coucher de soleil, comme tu disais. C'est la Réunion, oui, ça c'était magnifique, on s'est régalé.
Il y a une épreuve mythique, non, à la Réunion?
La Diagonale des Fous, alors ça c'est un trail qui a lieu tous les ans, auquel on a participé d'ailleurs l'an dernier avec Nicolas.
Mais, ça a donné quoi? Vous l'avez fini?
Ouais, Nicolas l'avait fini il y a 3 ans, l'an dernier il a été obligé d'abandonner, et moi l'an dernier c'était ma première participation, ouais, je l'ai fini. Pas très bien, mais je l'ai fini.
C'est dur?
Ouais, c'est dur. Ouais.
c'est les Iron Trails, c'est ce qu'on appelle quoi ça?
Les Ultra Trails.
Les Ultra, ouais.
C'est ce qui est au-delà de, on va dire, 100, 120 km. Là, la Diagonale des Fous, c'est 165 et 10 000 de dénivelé.
Ok.
Et en combien de temps?
En bagnole?
Moi, j'ai mis 37 heures.
37 heures. Hein, toi, tu le fais en bagnole, Laurent. Chacun son truc. Ok. D'autres questions, messieurs?
Bon, c'est vrai qu'on découvre un peu cette spécialité, et c'est bien. Il y a tout un aspect aussi mental, hein, parce que sur des distances, bien évidemment, aussi longues, des durées pareilles. Donc il faut s'accrocher. Donc qu'est-ce qu'on se dit là quand on sent qu'on fatigue, qu'on est presque à deux doigts de l'abandon? On pense à quoi? À la famille, bien évidemment, mais à quoi on se raccroche? Parce que bon, nous on fait de temps en temps quelques footings, comme Laurent le dit, sur le COS, et bon, quand on arrive au bout de 45 minutes, une heure, on se dit
40 minutes, il pense à sa famille,
voilà, 45 minutes, une heure, il faut s'accrocher pour arriver à une heure et quart. Donc
au numéro des pompes funèbres, au bout de...
au bout de 35 heures, quand vous passez, non, ça va m'aider, moi, ça va m'aider à arriver à 1h30, 2h, quoi.
Bon, là, je vais répondre parce que ça m'arrive beaucoup plus souvent à moi qu'à Maxime. D'accord. C'est la même chose. Oui. Alors, le fait que ce soit un sport d'équipe, pour le coup, ça facilite les choses parce que je pense qu'on aurait du mal, les uns ou les autres, à aller au bout de ce genre d'épreuves en solitaire. Donc, voilà, on fait ça aussi pour l'équipe. Il y a des moments difficiles des fois pour un athlète et donc il est soutenu par les autres. Il y a des fois des moments difficiles pour les quatre athlètes en même temps et ben là chacun se débrouille un peu comme il peut. Mais il y a vraiment toujours un côté équipe, solidarité et entraide quoi. On régulièrement on se fait tracter par un autre équipier qui est plus en forme. On s'aide vraiment sur toutes ces choses-là. On se fait porter le sac à dos. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté collectif au-delà du fait de rester ensemble et d'être ensemble. C'est une aventure humaine parce que y a des liens forts qui se créent du fait de cet engagement, on va dire, et de cette entraide qui est mise en place.
Ok, Nico, tu voulais dire ou quelque chose ou pas ?
Ouais.
Vas-y.
Je voulais juste revenir sur cette équipe qui, qu'on le veuille ou non, ça reste une équipe qui fait rayonner la Lozère sur des manches de championnat du monde. C'est pas donné à tout sportif lozérien. Quand on voit l'engagement qu'ils y mettent pour connaître Max en dehors, ils s'entraînent très régulièrement. Pour le coup, quand les collègues me proposent de sortir en vélo avec Maxime, j'y vais pas. À part quand j'aurais acheté un vélo électrique, peut-être. Donc voilà, il y a un très gros engagement, un très gros investissement. On parlait du financier. Moi, j'en profite pour dire que cette équipe mérite d'être soutenue pour pouvoir continuer à faire rayonner la Lozère au niveau mondial. Et voilà, et ça serait bien que quelques autres partenaires privés puissent les aider à enchaîner ces matchs de championnat du monde. Parce que pour connaître un peu... Comme je disais, Max, c'est pas toujours évident d'organiser tout ça, quoi.
Absolument, tu as raison, Nico. Messieurs, vous perdez votre quatrième coureur féminine dans l'équipe. Vous êtes à la recherche d'une remplaçante. Ça s'en est où ? Elle va faire un tour du monde, hein, il me semble. C'est ça ?
Ouais, du coup, on lance une annonce. S'il y a des féminines qui sont motivées pour courir avec nous.
Il y a Mathilde qui doit nous écouter sur le...
Voilà, mais elle vient tout à l'heure. On va lui demander à 13h30. Enfin, 100 km, c'est beaucoup, quoi. Beaucoup plus. Messieurs, merci beaucoup d'être venus dans cette émission. On va vous suivre, on va vous continuer de voir. La prochaine course, c'est quand ? Vous le savez ?
On n'a pas encore trop parlé du calendrier de l'an prochain. Non.
D'accord, on se repose, on récupère et on y retournera. Ok, mais 1h05, allez, on va faire une pause musicale maintenant et comme ça on reviendra après avec l'actu des sports collectifs lozériens. C'est parti. Allez, on est de retour. On va parler des clubs sportifs lausériens avec tout d'abord le volley. Alors le volley, on en est où? Hop, ça y est, en volleyball, Mandy a cru, nous aussi, mais non. Défaite à Saint-Jean-d'Illac au tie-break, 25-21, 19-25, 23-25, 25-21 et 15-12. Un point pris tout de même. Nico, au classement, on en est où?
Donc du coup, ça donne toujours Paris en tête, suivi de Cambrai à 3 points. Donc Paris 22 points, Cambrai 19 points. Suivi de Saint-Nazaire et Martigues. Martigues qui vient à Mende ce week-end,
oui,
si je ne me trompe pas.
20h30 samedi, ouais.
Mende qui est 9e, devant, donc, avec 9 points, devant Saint-Jean-d'Illac 8 points, Nancy 5 points et le CNVB 3 points.
Ok, qu'est-ce qu'on peut dire de... C'est un peu rageant parce qu'on y a cru et non, ça toujours pas.
Mais oui, parce que contre Saint-Quentin, on perdait 2-7-0, donc on était revenu à 2-2 pour perdre finalement au tie-break. Et là, ben, on menait de 2-7-1. Et dans le quatrième set aussi, on avait 3-4 points d'avance à un moment. Et puis au final, ben, on perd le quatrième et on perd le cinquième dans la foulée. Donc une nouvelle défaite 3-2 qui fait pas nos affaires au classement. Puisqu'au final, on n'est qu'à 2 victoires pour 6 défaites. Et donc, les 2 victoires, c'est contre les 2 derniers. Donc, ben voilà, un début de saison quand même assez mitigé, je trouve. Et donc, bon, et c'est vrai qu'il y a ce problème de centrale avec la grave blessure de Ninao. Donc, la recrue avait ses papiers. Donc, ça s'est fait plus rapidement que prévu, heureusement. Et donc, il a joué. Il était à IAC pour son premier match.
Et alors, ça
donc,
donnait quoi?
Vous voyez, il a fait quoi, 9 points, 9 ou 10 points, il a marqué.
Je pense qu'il a surtout fait ce qu'il a pu parce que ça faisait des mois et des mois qu'il n'avait pas, voilà, même pas ça. Touché un ballon de
oui,
volleyball.
Dans, ouais. Arrivé dans une nouvelle ouais. équipe aussi.
Donc, une nouvelle équipe et puis surtout qu'il n'avait pas joué au volleyball, il faisait que des footings. Donc
ouais. On sait que c'est, voilà.
Ça n'a pas dû être facile pour lui de se mettre.
Comme dit Laurent, on sait que c'est compliqué d'intégrer une équipe, donc quand tu arrives en cours de saison et que tu fais ton premier match alors que le championnat a débuté, c'est vrai que c'est pas évident. Donc
mais c'est quand même une bonne nouvelle qu'il soit là.
Voilà, c'est vrai que il fallait une recrue, hein, et donc les dirigeants l'ont bien compris et c'est pour ça qu'ils ont recruté ce Brésilien. Donc voilà, on va voir Martigues qui a certes perdu là ce week-end, mais c'était contre Paris. Martigues qui fait un énorme début de saison. C'est un vrai test, on va voir, parce que là, si tu fais le même début de match que contre Saint-Quentin, bah là, ça va être la bérésina totale, hein. Donc il va falloir être là d'entrée et donc se libérer, parce que je pense qu'il y a quand même ce problème un peu mental, on se bloque un peu, à part notre centrale moldave qui est stratosphérique, incontestablement le meilleur joueur depuis le début de la saison. C'est vrai qu'on sent quand même une équipe un peu en dedans mentalement qui est pas libérée comme on a pu la connaître il y a quelques saisons.
Oui, on va suivre ça. On va essayer d'inviter Constant pour le prochain Instant Sport pour faire un point. On attendait que quelques matchs soient joués pour faire un petit point à mi-saison. On n'y est pas encore.
Tu y es presque. Hein, puisque...
Mais on y est presque, c'est pour ça. On va voir avec lui. Après, d'un côté, moi j'en ai discuté avec lui, mais avant le match, on s'est dit que c'est des matchs qui peuvent tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc généralement, ce genre de match, ça s'égalise au final.
Ouais.
Ou pas.
Ouais.
Pas en ce moment.
Non, pas
en ce moment, ouais, mais ça va tourner en notre faveur un jour ouais. ou l'autre.
Disons
de même que
les tie-breaks, on les gagne jamais. Quoi.
Oui, après, c'est comme les erreurs d'arbitrage, tu vois, ça s'égalise. C'est
ça
pareil.
S'égalise, comme disait Patrick, t'es mené 2-0 contre Saint-Quentin et tu fais l'effort de revenir à 2-2, tu perds 3-2. Là, t'es mené 1-0, 2-1 et tu perds encore 3-2. Donc ça s'égalise. Oui, il faut
mal à
surtout.
Ça s'égalise. En deuxième surtout, partie de saison, ça
oui,
va s'égaliser.
Il faut surtout essayer de gagner un peu les sets clés, quoi, qui permettent justement de gagner les matchs.
Non, mais c'est vrai que pour ceux qui étaient au match, dans le cinquième set, tu joues, il faut le dire, en petit bras. Tout d'un coup, tu as la pression qui s'abat sur tes épaules parce que tu es dans ce cinquième set et que tu aurais dû quasiment conclure dans le quatrième. Tu aurais dû le match, il était plié, ça te faire 3-1 pour toi. Et donc tu te retrouves au final dans ce cinquième set et puis mentalement, ben voilà, tu as la pression qui s'abat sur toi et tu joues vraiment petit bras, c'est le terme. D'ailleurs, je crois que ça a été repris sur Facebook, hein, sur le propre Facebook du club. Et donc ben voilà, donc ça veut bien dire qu'il y a quand même, on n'est pas libéré dans les moments clés des matchs.
Et ouais.
Alors, on a de la chance, c'est que l'équipe de Nancy est cool, elle,
ouais, corps et âme,
puisqu'elle était annoncée parmi les favoris et au final, ils sont largués, quoi.
Et oui, parce qu'ils n'ont que 5 points. Donc,
et comme on le rappelle, il faut qu'il y ait une équipe derrière oui. nous à la fin du championnat, autre que le CNVB. Je verrais bien qu'il y ait Nancy. Quoi.
Mmh. Oui, parce qu'il y a que reste derrière nous quand même. Hein.
Il y a que derrière nous, mais ah ouais, bon, c'est un, point merci, de... un point d'écart, c'est tout.
Ouais, mais c'est le point qu'on a pris chez eux.
Ouais, mais Iac n'avait gagné qu'un match avant de jouer contre toi, donc
c'est
quand même c'est un début de saison compliqué. Alors on découvre le sport professionnel, on découvre la Ligue B, donc c'est sûr qu'il faut raison garder, il faut pas être trop gourmand, mais au final quand même, au bout de 8 journées, 2 victoires, 6 défaites, ça fait un peu. Il manque une ou deux victoires.
Je suis d'accord. Oui. Laurent.
Alors, passer l'euphorie de la montée, puisque il y a eu cette euphorie, les deux premiers matchs, c'était sympa. Il faut quand même se rappeler qu'on a fini cinquième l'année dernière. On monte administrativement en Pro B, en Ligue B. Et donc, c'est normal que l'équipe ne peut pas être non plus dans le top 5, top 6 tout de suite.
On a fini quatrième, mais tiens,
de plus. Il y a quand même eu des joueurs majeurs qui ont quitté l'équipe. Il a fallu les renouveler, un temps d'adaptation. Donc, au final, ça pourrait être normal cette place.
Oui, oui.
Il ne faut pas s'attendre à. On aurait aimé s'attendre à plus, bien sûr. Oui. Mais en y réfléchissant mieux, bon, on avait fini cinquième en élite.
On nous a vendu plus aussi.
Quatrième. Mais bon.
De quoi ?
On nous a vendu plus hein, quand ce club du MVL nous a vendu des objectifs plus hauts que ça. Hein. C'est pas nous qui avons fantasmé à l'avance.
Comme Julien. Sur...
Et regarde sur Lille, 15e l'an dernier, cette année 4e.
Sur le bilan du début. Pas la Ligue 1, Lille.
Oui. Vas-y.
Sur le bilan du début de saison, Laurent, tu dis que Nancy coule, mais finalement, pourquoi on est devant Nancy ? C'est parce que, par chance, on va dire, on a perdu plus de matchs 3-7 à 2 qu'eux. Du coup, on a réussi à gratter des points parce qu'on a le même bilan qu'eux après 8 journées. 2 victoires, 6 défaites pour Nancy et le MVL. Bon, Nancy a un peu plus de mal. Ils perdent un peu plus souvent 3-0 ou 3-1. Nous, on arrive à perdre, par chance, comme je dis, 3-2. Mais au final, il y a ce tir groupé là, de Avignon à Nancy avec un peu le même bilan depuis le début de saison. Quoi.
Oui, c'est vrai. Absolument. Voilà. Allez, on passe à l'équipe réserve avec la pré-nationale masculine qui est allée gagner 3-7 à 0 au Cress. Au classement, l'équipe est troisième avec 14 points. Les féminines en régionale ont gagné 3-0 et elles sont troisième avec 12 points.
Non, elles ne sont pas troisième. Enfin, si tu retournes le classement, elles sont troisième.
Ah oui, elles sont avant-dernière.
Elles sont premières non relégables. Oui, grâce à cette victoire, elles sont sorties de la zone rouge.
Bon, ben écoute, si tu veux. Bon. Ok, ça marche.
Quel escroc.
En football. Allez, football, l'AFL gagne à Toulouse Rodéo. Alors ça fait du bien. Hein. 1-0, but de Leroux à la 34e.
Merci.
Ouais, on fera pas la blague que Nico a marqué. Parmi les autres résultats, match nul 2-2 pour la réserve de... Alors j'ai marqué de Mende, mais c'est pas du tout Mende. C'est de Montpellier chez celle de Rodez. Et match nul d'Alès, 1-2 à Muret au classement. Mende est 6e, 15 points, un match de moins à égalité avec la réserve de Toulouse. Toutes les équipes au-dessus ont un match de plus. Hein. Toulouse 2, 15 points. Rodez 2, 16 points. Blagnac 17. Mende 2, 20. Et Alès 29.
Autrement dire que si on
fais-nous rêver.
La bonne idée de gagner notre match en retard contre Fabregues, on est 3e.
Exactement.
Et c'est ça.
Samedi.
Et c'est ce samedi à quelle heure ?
18h.
18h.
Voilà, bonne idée. Comme ça, on peut faire à la fois le foot et le volley.
Et non, parce qu'entre, il y a un match très important de la pré-nationale d'handball féminin, mais on en parlera après. Oui, très belle victoire, hein, c'est jamais facile à Rodéo. Comme l'an dernier, je crois qu'on a gagné 1-0.
Non, 2-0.
Ou 2-1. 2-0. Fadil s'était blessé ou il avait mis un doublé.
Je crois qu'il avait marqué les deux buts.
Voilà, il y avait une histoire avec Fadil l'an dernier. Ouais, mais bravo. Hein.
Oui, ça fait du bien. Et donc, toujours cette défense de fer, puisque hormis Alès, on est la meilleure défense de la poule.
Sans prendre de carton jaune cette semaine, avec, puisque la semaine dernière,
si on a Leroux qui a pris un carton jaune, 14e.
Avec 8 petits buts seulement encaissés depuis le début de la saison. Et puis au niveau des buteurs, on parlait de Leroux, donc c'est son premier but de la saison en championnat. Et donc on a marqué 11 buts, et c'est 9 joueurs différents qui ont marqué les 11 buts. Donc ça aussi, c'est
qu'un attaquant n'avait pas marqué un but.
Voilà, c'est pas si courant que ça. Donc c'est hyper bien réparti. Et donc le meilleur buteur n'est qu'à 2 buts. Et donc on voit qu'on a du mal, mais tout le monde marque. Et une défense de fer, c'est la marque de fabrique cette saison. Cette défense à 3, là, quand les 3 expérimentés sont dans l'axe, c'est vrai que ça, de suite, ça quand même apporte de la solidité.
Une équipe qui tourne bien quand même en ce moment. On aurait pu craindre le contraire souvent avec les effets Coupe de France et on peut rappeler mais que depuis ça enchaîne quoi.
Absolument. Tu as raison, Nico.
Ouais, surtout que ce week-end, il y avait quand même quelques absents parmi les titulaires parce qu'il y avait Momo Sako et Axel qui étaient suspendus.
Oui.
Fadil qui a pas fait le déplacement parce qu'il était blessé. Donc voilà, c'est bien aussi d'avoir gagné avec Nabil Zanina qui était de retour au milieu de terrain associé avec Paul. Et devant, c'est vrai que le trio d'attaque était un peu new look, parce qu'il y avait donc Quentin Leroux qui a marqué, il y avait Yo Malo et Karim Belanda. Donc des joueurs qui ont un petit peu moins de temps de jeu depuis le début de saison. Donc c'est très bien d'être allé gagner dans la région toulousaine, quand on sait la difficulté que ça représente ces déplacements.
Et puis bon, tu n'oses pas le dire, mais il y a quand même un scoop au niveau de l'AFL, hein, bon, qui va te confirmer dans pas longtemps, mais je prends le risque de l'annoncer. Johan Musi a décidé de quitter le club, donc il ne portera plus le maillot de l'AFL. Donc c'est pour ça que Jürgen Giraud était titulaire, et donc le jeune qui joue en principe
Sartre
qui joue avec toi, Julien, était remplaçant. Donc, est-ce qu'il va y avoir un gardien qui va arriver au mercato? On n'en sait rien, mais en tout cas, ce que l'on sentait depuis plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, puisque j'avais fait moi un écho en début de saison qui avait valu beaucoup de commentaires, et finalement, je n'étais pas si loin de la vérité, donc ça se confirme. Johan Musi a rendu sa licence il y a quelques jours.
En début de saison, tu avais quand même mentionné le futur club voilà, de,
voilà.
Aussi.
Donc, là, par contre, il n'a pas dit qu'il partait.
C'était quel club que tu mentionnais?
J'avais dit qu'il était en contact avec Alès,
tous les Mandois.
Comme Dorian a pu l'être, même s'il n'y est pas allé. Puis ceux qui étaient en contact et qui finalement ont signé à Alès. Donc ça m'avait valu beaucoup de commentaires. Plus ou moins acide ou pas, mais en tout cas voilà. Donc il est, 2 mois après ou 3 mois après, la sentence est tombée. Il a donné sa démission. Mais même si c'est vrai, et je le précise, il n'a pas dit qu'il rejoignait Alès immédiatement. L'avenir nous le dira. Mais bon, c'est vrai que bon, de toute façon. En tout cas voilà. L'info est là et elle va te confirmer.
C'est vrai qu'il était devenu remplaçant cette saison et du coup, il ne le vivait pas très bien. Le week-end dernier, il avait eu la chance de pouvoir retrouver un poste de titulaire et il avait fait, je crois, j'étais pas au match, mais d'après ce que j'ai entendu dire, une erreur qui a coûté un but. Et ben, je pense qu'il l'a mal vécu et ça a été le coup de grâce. Quoi.
Et ouais. Contrairement à Nico qui fait beaucoup d'erreurs dans ses matchs mais qui reste lui. Lui donc il rend sa licence mais il veut pas la rendre. Et du coup Julien, c'est dommage que tu te sois blessé s'il y avait tant de monde absent que ça en attaque. C'était peut-être ta chance. Non,
je pense pas quand même.
Bon. Il a le coup d'un vrac. Donc pour ceux qui nous écoutent, il a le coup d'un vrac.
Il est blessé.
Ouais, non, mais il est blessé, je précise, il y a Saint-Gilles et Petit Bar qui arrivent en 2 week-ends.
Ah, il le dit, je croyais que tu allais
rester calme. Il a le bras en écharpe.
Ah, si, tu le dis en direct, hein.
Voilà.
Je sais pas. C'est faux, c'est pas beau, c'est absolument faux.
Tout ça parce qu'il a plus le niveau pour jouer en réserve.
Attends, mais on va parler, de la réserve parce que tu devais jouer, Nico, non?
Mais non, je joue avec la 3, moi.
Ah oui, mais oui. Pardon, excuse-moi.
6-1, victoire, tranquille. Attends, Christian. Tu en veux d'autres? Moi, j'ai vaincu cette année en championnat.
Ouais, ben on va en parler de la 3 après.
Attends,
la 2 d'abord avec victoire 2-1. Alors, je retrouve où c'est. Un doublé de Diallo, c'était contre Metz.
Non, l'US Trèfle. Saumur.
La réserve de l'AFL?
Oui. Ouais. Non, mais c'est pas grave. Metz, c'était il y a un mois et demi.
Metz.
Je sais pas qui c'est qui prépare ces émissions, mais.
Saumière. D'accord.
C'est Saumière, ouais.
C'est Saumière. Oui. J'ai pas dit Saumière?
Non, t'as dit Metz.
Ah, d'accord, non, pardon, je me suis trompé. Un doublé de Diallo qui a joué 20 minutes avec la Une.
Oui. Ah oui, mais non, il était remplaçant avec la Une.
Il est entré à la 70e.
Et qui a mis un doublé dans les dernières minutes, en plus.
Non, il a marqué le premier but vers la 35e et le deuxième, par contre, à la 89e. Ouais.
Ah,
ce que je t'ai dit ce matin en arrivant, c'est que Diallo a mis un doublé et sur un coup franc direct, il donne la victoire à la FL dans les 5 dernières minutes.
À la 89e, bon, c'est ça.
T'étais pas réveillé, t'as pas eu ton café.
J'étais pas réveillé, ouais, non.
C'était 10h quand même, quand je suis arrivé.
Oui, c'est vrai que t'arrives qu'à 10h, mais tu sais, moi, ça fait un moment que je suis en train de plancher, alors je suis un peu fatigué. Tiens, on va parler de la régionale féminine.
Mais du coup, on est leader quand même, avec la réserve.
Alors, exactement. Mmh. Alors, je vais te dire combien tu es. Non, je n'ai pas le classement.
15 points
avec un match en moins qu'on rattrape ce week-end à Saint-Gilles.
Ils collaient à Montpellier Petit Bar.
Oui, ils sont à un point derrière nous. Donc, et on les affronte dans 2 semaines, Petit Bar.
Ouais. Toujours une bonne équipe, Petit Bar. Hein.
Oui, ils ont gagné 4-0 ce week-end contre Nîmes Athletic.
Ah.
Mmh. Ah, ça devait être un beau match.
Ouais, sympa. Belle ambiance, ouais, c'est sûr. Bon, la régionale féminine en arrive. L'équipe recevait Saint-Aunès, leader invaincu du championnat, hein, qui reste invaincu d'ailleurs. Saint-Aunès qui est venu gagner 3-0 à Mende. Attends, 3-0 contre le leader invaincu, c'est bien. Ça veut dire que vous avez fait un bon match, Nico.
J'étais, ouais, je suis rassuré comparé à la prestation qu'on a livrée il y a 15 jours parce qu'on a fait un vrai match de foot. Alors, le score est un poil sévère, mais en même temps, voilà, c'est 3 buts évitables. On prend le but le plus rapide de l'histoire. Engagement, frappe, il s'est passé 3 secondes. Lucarne, 1-0. Merci, au revoir. Un quart d'heure, 20 minutes après.
Il a rendu hommage à l'OM, il a pris un but en clair.
Rigole pas, Patrick, ça m'a pas fait rire sur le coup. Je te promets que.
C'est la façon dont tu racontes ça, donc je t'imagine sur le banc de touche. Ah,
j'étais debout, j'ai dit allez les filles.
Allez, bon, et voilà.
Bref. Deuxième but.
C'est rare chez féminine, un tir de.
Ouais, c'est rare, ouais. Surpris par le surtout rebond, voilà, bon. Emy qui nous dépannait dans les bars en l'absence de Karima.
A
mal jugé le rebond, mais voilà, un rebond un peu vicieux avec le terrain, voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Un deuxième but où les filles sont meilleures que nous dans notre surface à nous, elles nous ont un peu tourné sur le coup, voilà, elles marquent, je pense que c'est évitable aussi. Troisième but, on veut pas jouer en vissé, on glisse derrière et l'attaquante parcelle au but. Voilà.
Comment ça, on veut pas jouer en vissé?
Ah, les filles, je sais pas, elles ont des problèmes avec les vissés. Ah. Pas jouer en vissé. Bref, du coup 3-0, on a quand même quelques occasions. Deuxième mi-temps, on fait 0-0, on manque un penalty, on aurait même pu gagner cette deuxième mi-temps, donc on a quand même montré de meilleures choses. Après, bon, clairement, c'est une équipe qui nous est largement au-dessus. Elle est à 25 buts encaissés, 25 buts marqués, un but encaissé, 6 matchs, 6 victoires.
Rien à dire.
Le seul but encaissé.
Ouais.
C'est leader invaincu.
C'est très solide.
Bon, écoute, c'est bien. Moi, je trouve ça
et
bien.
Du coup, voilà, on a prochain passé match. Un peu le prochain match donc à Saint-Chapt. C'est vrai que là, on est sorti d'un gros mois où on a joué deux fois les premières, une fois à domicile, une fois à l'extérieur. On s'est dépassé chez les secondes, on a reçu l'atte, donc c'est vrai que on avait un peu la tête à l'envers après tout ça. J'espère que maintenant, avec les matchs qui arrivent, avec des équipes plus à notre portée, on pourra se remettre un peu dans le droit chemin.
Ouais. Ok. Allez, on va accélérer parce que ça y est, on commence à être en retard. L'ONL s'incline lourdement, 5-1 contre Lignerolles. Le foot Sud-Lozère perd 2-0 à domicile contre Poulx, c'est avant-dernier du classement. Le Buisson n'a pas joué, je n'ai pas trouvé le résultat de Langogne.
Ils ont perdu 2-0.
Voilà, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas trouvé.
Contre Voré.
Ok, la départementale 3, on va donner les résultats rapides. Hein. Le Masgros Marvejol arrêté. Il y avait 2-1 pour le Masgros à la fin du match. On ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Mende 3, 6-1 contre la réserve du Buisson, tu l'as dit. Aumont, Lavaillon, Tomonez, 3-1 contre Badarou. Et le Chastel Nouvelle a gagné 3-1 contre Montégoal. Mmh. En rugby, le RCML se déplaçait à l'Est et perd 16-10, ramenant le point de bonus défensif. Patrick, sur ce match, tu as eu des échos?
C'était un match en retard. Et Mende a fait une super première mi-temps puisqu'il y avait 10-3. Et puis en deuxième mi-temps, forcément plus compliqué, mais c'était assez équilibré puisque chaque équipe a marqué un essai. Et puis les fautes en deuxième mi-temps, trop d'indiscipline, trop de fautes, des cartons. Et donc ces deux pénalités marquées par Alès qui font la différence. Et ça arrange absolument pas notre position au classement puisque on reste dernier et donc dans ce championnat new look, puisqu'il y a 5 poules sur toute la région Occitanie, il va y avoir au moins 2 descentes, il aurait dû y en avoir 3, mais heureusement il n'y a que 9 équipes, donc il y a déjà une descente obligatoire. Donc il va falloir réagir rapidement. Alors c'est vrai qu'il y a un enchaînement de matchs à l'extérieur pour cette équipe du RCML, mais bon, il va falloir vite se réveiller si on ne veut pas connaître une terrible désillusion à la fin de l'année. Et là, dimanche, un déplacement cataclysmal à Lunel, puisque Lunel, 8 matchs, 8 victoires, c'est l'ogre de cette poule. Donc ça va être chaud.
Ouais, on va suivre ça et après finir un peu les déplacements parce que. Ouais.
Et Lunel, j'avais vu le match aller au chapitre. Il y a des ailiers, c'est des Carl Lewis, donc ça va à 10 000 à l'heure. Impressionnant la vitesse de ces ailiers, donc on comprend mieux pourquoi ils sont largement en tête du classement.
Handball, qualification pour le quatrième tour. Qu'est-ce qu'il y a, messieurs? On ne changera pas la photo de la bâche des pronostics.
Laura nous montre une photo avec des cheveux.
Ouais. Alors, handball, qualification pour le quatrième tour de Coupe de France pour les garçons du handball Nord-Lozère, 40-12 face à SOG. Qualification également pour les garçons du MGC contre Saint-Mamé, 29-28. Le prochain tour a lieu dans 15 jours. Messieurs, question simple, est-ce que les deux clubs peuvent se rencontrer ou on n'est toujours pas dans les mêmes poules? Non.
Non, mais
pas.
C'est surtout que le MGC fait la Coupe de France régionale et le HBNL fait la Coupe de France départementale.
Et oui, parce que un garçon, le HBNL est au niveau départemental.
Ok, bonne précision. Ouais, ça, c'est super.
Les filles sont au niveau régional du Nord-Lozère, mais les garçons sont en départemental.
Et oui, c'est ça. D'accord, ok. Les féminines, d'ailleurs, du handball Nord-Lozère, qui, elles, ont perdu contre Loud, qui évolue en N3, quand même, 15-14. Donc, beau match hein, des féminines.
Une division au-dessus, et tu perds de but, c'est vrai que c'est ralent, mais il y a dû avoir un superbe duel.
Ouais, 15-14, ça fait très serré.
Surtout, ouais, ça fait surtout...
Voilà, et pour finir cette page handball, on va parler des féminines du MGC qui jouent ce samedi à 18h30 le match ou de la montée ou de la descente en poule haute ou en poule basse contre Aramon.
Pas de la montée, mais pour savoir si tu fais les playoffs ou si tu fais les playdowns.
Si jamais elles gagnent, elles sont en playoffs et si elles perdent, elles sont playdowns. Voilà, c'est aussi simple que ça contre Aramon qui est juste derrière. Après, il y a une possibilité quand même de monter si on perd.
Les autres gagnent pas.
En cas de défaite, c'est pas mathématiquement mort non plus en cas de défaite.
Oui, mais si, sauf si, parce que Lunel joue à Bouillargues et si Lunel perd à Bouillargues, c'est définitif. C'est mathématique, elles sont en poule basse si elles perdent. Après, si Lunel gagne Bouillargues, toi tu joues à Lunel le dernier match et tu peux encore repasser devant si tu les gagnes. Sachant que j'ai parlé avec les joueuses du MGC Bouillargues devrait quand même s'imposer contre Lunel à domicile, donc toi tu as intérêt d'imposer contre Aramon. Voilà, avec des joueuses qui jouaient à l'époque avec Yvelise également à Nîmes et qui jouent à Aramon.
Et tu parlais de ça, mais après donc il y a les garçons qui eux sont définitivement en playdown à deux journées de la fin. Ils reçoivent la réserve de Rodez, donc c'est le duel des mal classés. Mais bon, il faut continuer à gagner des matchs pour justement aborder cette deuxième phase dans des conditions mentales plus appropriées.
Surtout si on garde des points contre Rodez.
Non.
Non, on les garde pas.
Je pense pas. D'après ce qu'on m'a expliqué. Tu ne conserves pas les points pour la deuxième phase.
Les garçons, c'est où? C'est à quelle heure?
C'est à 20h30.
À domicile.
Après le match des filles.
Ça aurait presque été sympa pour le coup d'inverser, là. De mettre les filles en prime et les garçons en ouverture, mais j'imagine que ça doit être des questions de règlement.
Ça, je sais pas, mais bon.
Mais ça aurait été presque sympa ce week-end de
faire
comme
ça. Carrément, parce que c'est le match de l'année, enfin pour l'instant. Après, il y en aura peut-être d'autres si elles sont qualifiées en poule haute, mais c'est vraiment le match à pas perdre. Ok, on finit avec le basket.
Tu voulais pas parler de ton petit point de règlement sur
la gardienne? Mais c'est qu'en fait, c'est 13h20.
Allez,
tu veux qu'on en dise un mot?
Une fois que t'as une info, lâche-la.
Allez, d'accord. Donc, on parlait de la semaine dernière de Frontignan et du fait que Julia Durand n'a fait que 7 arrêts. Mais en fait, elle s'est blessée, elle a fait 7 arrêts en un peu moins de 30 minutes. Et un point de règlement que je connaissais pas, l'équipe de Frontignan qui n'avait pas de gardienne remplaçante sur la feuille de match et qui a pu faire rentrer sa gardienne qui était blessée, qui était dans les tribunes et donc pas sur la feuille de match. Donc voilà, c'est un point de règlement que je ne connaissais pas, et dans aucun sport d'ailleurs. Hein. On peut faire entrer quelqu'un qui n'est pas sur la feuille de match au début du match, c'est extrêmement étonnant.
C'est totalement impossible.
Il faut quand même être balèze pour connaître ce point de règlement.
En plus, c'est injuste. C'est vraiment injuste, parce que c'est-à-dire si ça t'arrive à domicile, que tu as la chance d'avoir ton joueur qui est blessé dans les tribunes, ça marche. Si tu es à l'extérieur.
Il faut que tu sois blessé et qu'il puisse jouer.
Et qu'il puisse jouer, ouais.
C'est pas assez incompréhensible.
C'est clair.
On va mettre quelqu'un sur cette affaire, se renseigner, voir si ça, on
ne peut
pas farnaquer.
Tu prévois 13 joueuses, quoi, finalement.
Oui.
Pas 12.
Tu dois tout en passant de venir te voir quand t'es emmerdé.
Tu choisis. Non, mais c'est que pour le poste spécifique du...
J'imagine.
Par exemple, je me souviens d'un match, d'un jour au volet, c'était Montpellier, la réserve de Montpellier. À l'époque, c'était peut-être même que la N2, mais ils étaient venus à effectif réduit. Il y a un joueur qui s'est blessé. Ils n'ont pas pu combler la différence parce que là aussi, le libéro ne peut pas passer. En tout cas, l'arbitre a arrêté le match. Hein.
Mais c'est arrivé, aux filles de Saint-Raphaël la semaine dernière en Ligue des Champions aussi. Ouais. Elles se sont déplacées qu'à 6 dans un pays nordique, là, je ne sais plus où exactement.
Et elles menaient en plus.
Elles menaient 2-7-0, mais alors le plus tranquillement du monde. Une joueuse s'est blessée, elles n'étaient plus que 5. Fin du match, défaite 3-2 par forfait.
Waouh, voilà. Et tu peux pas jouer à un de moins, hein, finir le match,
non.
Comme au foot.
Tu es obligé d'être au minimum 6 sur le terrain.
Ouais. Ah ouais. Sympa. Ouais, sympa. Eh bien, bon, donc basket, je disais, nouvelle défaite du BCM, cette fois-ci au Lemps, 95-48, l'équipe qui a toujours 4 de ses titulaires qui sont blessés, donc ce qui fait quand même beaucoup sur une équipe de 5 joueurs. 5 ou 6 5. Et d'ailleurs, l'entraîneur-joueur qui s'est également blessé lors de ce match, et donc c'est un peu l'équipe loisir qui compose cette équipe 1. Voilà. Voilà, on leur souhaite bon courage, on les suit.
Il y a match vendredi, d'ailleurs, à domicile.
Ah, vendredi
ce,
à domicile.
Ce vendredi-là, oui.
Bon, mais ça nous fait un beau week-end de sport,
contre,
là.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a. Ben, ce week-end, il n'y avait personne qui jouait à domicile.
Là, il y a tout
là, du coup, ouais. Sauf le rugby qui va encore
essayer. On va pas tout voir, du coup.
Et ouais, il va falloir faire des choix.
C'est ça.
Les pronostics, je voulais que l'on mise sur le trio de tête du Ballon d'Or, mais en vue des nombreuses fuites qui sont en train de sortir un peu partout, qui annoncent Modric premier devant Varane et Mbappé. On va miser sur.
Et pas Griezmann, du coup.
Et pas Griezmann, du coup. On aura de quoi parler la semaine prochaine. Entre ça et le concours de Miss France qui arrive dans 2 semaines. Je vous ai sorti d'ailleurs le petit calendrier Miss France.
C'est la semaine prochaine là qu'on peut parler sur Miss France.
C'est ça.
C'est le 15 décembre, hein, la soirée.
C'est ça. Et cette année, je donne.
Je suis pas la semaine prochaine.
Mais tu nous le diras ton pronom. Et cette année, je donne 2 points.
Pour le
concours Miss France.
Ah, intéressant.
C'est le pronostic le plus important de l'année.
C'est-à-dire que je vais passer devant, quoi, en fait.
Et ouais, peut-être. Donc, je disais, alors, nous allons parier sur le choc de Ligue 1, le 2e contre le 4e. Montpellier qui reçoit Lille. Mais avant cela, nous allons faire un petit récapitulatif parce que ça a beaucoup bougé dans ce classement et il y a eu beaucoup de bonnes réponses. On écoute ça de suite. Manchester City, c'est pas huis clos, hein, c'est non. Stade plein, tout ça. Patrick, vas-y.
2-2.
Paris-Liverpool. Liverpool, oulala, ça c'est compliqué. Je vais dire 2-1 pour Paris. Allez, j'y crois.
Mais je vais dire 2-1 pour Paris aussi.
C'est bien ça. Ok, Atlético Madrid qui reçoit Monaco. Non, j'hésite entre 3-0 et 2-0. Mathilde a dit 2-0 pour l'Atlético. Ok, Nico.
1-2.
Vas-y, Laurent.
1-0 pour Manchester.
Laurent.
Moi aussi, je dis 2-1, mais pour Liverpool.
Nico.
2 partout.
Moi, je mets 3-0 pour Madrid.
J'allais partir sur 3-1, mais Patrick...
Ah, t'as eu la chance de le dire
bon, hein. Ouais. Je vais dire 2-1 pour l'Atlético.
Bon, voilà. Un 0 pour Manchester.
Ouais. Je vais dire 2-1 pour l'Atlético.
Et voilà, nos amis du cirque, j'étais obligé, excusez-moi. Donc, vous avez vu, ça a changé au classement. Patrick prend seul la tête avec 3 points.
Oui, par contre, t'es toujours dernier. Bon, ex aequo, mais t'es toujours dernier.
Je suis troisième. Je suis troisième. Deuxième ex aequo, Julien qui monte sur deuxième place. Tu vois, je t'avais dit qu'il fallait viser
j'ai doublé mon capital point par rapport à l'année dernière.
Exactement, plus de 100%. même. 2 points, Nico 2 points. Et on a 1 point avec Laurent et Mathilde. On va parier donc sur Montpellier qui reçoit Lille. Et donc, je vais commencer. Qui c'est qui a marqué des points? Moi, j'ai marqué des points. Mathilde aussi. Mathilde dit 2-0 pour Montpellier. Et moi, je dis 2-0 pour Montpellier. Et Laurent, tu dis?
Je dis 1-0 pour Lille.
Ok. Nico?
1 partout.
Très bien.
0-0, ça va être chiant.
Mais non. Ok. Patrick?
2-2.
2-2. Ok, très bien. Bon, mais super, on va marquer des points. Donc, tu voulais parler de quoi? De l'Euro, c'est ça? Alors, Islande, Turquie, Albanie, Moldavie et Andorre pour les qualifications. Ouais, c'est facile, hein, Patrick. C'est réglé.
Bah, surtout avec les qualifiés directement. Donc, c'est vrai que si on n'est pas dans les deux, ça paraît difficile. Le premier match, je crois qu'on va en Moldavie, c'est au mois de mars qui arrive. Et après, on reçoit l'Islande deux, trois jours après.
On se déplace 3 fois à la phase aller et on reçoit 3 fois à la phase retour.
Ok.
Attention à ce complexe de supériorité, messieurs. Je vous rappelle que l'Islande a fait une très belle Coupe du Monde et un très bel Euro oui,
on
l'année
les
d'avant.
5 à 2 ensuite.
Et la Turquie, je pense que même s'ils n'étaient pas qualifiés sur le dernier compète, il faut y aller jouer.
Elle était champion du monde.
Ce sera pour moi le meilleur le pire déplacement.
Non mais tu peux.
La Turquie, c'est le plus dur. Oui,
le pire, c'est d'aller en Andorre ou je sais pas où.
Avec deux, qualifiés.
3 degrés, que le terrain.
Ils vont ramener des clopes.
Ils vont faire le plein d'essence. Et du coup, là, c'est les matchs plus durs pour la motivation. Il y a 500 spectateurs, non, Icaï.
Ce sera l'occasion à Deschamps de peut-être de faire des tests aussi.
Mais d'ailleurs, tu parlais de Deschamps, mais s'il veut des renseignements sur l'équipe de Moldavie, nous, ici, on a un Moldave, dans l'équipe de volley, donc il peut lui donner des renseignements s'il veut.
Ah, peut-être que Julien Gall, on ne sait jamais, hein, peut-être un Moldavie peut croquer du temps de jeu, son coup est réparé, tout moment.
On ne sait pas. Le
22 mars, c'est son niveau.
Non, mais c'est pas mal, la Moldavie.
Il attend son passeport en Moldave pour être sélectionné.
J'ai plus de chances d'être international moldave que français.
Oui, c'est sûr. Mais tout le monde ici, je te rassure.
Et par contre, je suis un peu déçu de ce tirage. On n'a jamais de chance. On ne peut jamais jouer Gibraltar ou Saint-Marin.
Bah, Andorre, quand même.
Ouais, mais on connaît.
C'est au-dessus Andorre, quand même.
On connaît Andorre.
En altitude.
Tu sais, Gibraltar, là, la dernière fois, il y avait eu un Allemagne-Gibraltar dans les éliminatoires. Ils avaient gagné 10-0. D'ailleurs, avaient marqué un péno.
Ouais.
Ou raté un
même
péno,
Giroud, il pourrait mettre un triplé.
La Moldavie qui a perdu 4-0 contre le Luxembourg il n'y a pas longtemps.
Attention, Luxembourg, on avait fait 0-0 contre eux.
Ouais, avec une tire sur le poteau, c'est vrai, à la fin.
C'est vrai. Grosse équipe, Luxembourg. Après, j'ai regardé, ouais, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas qui sont ensemble, mais.
L'Espagne aussi, Suède, Norvège, je crois, un truc comme ça. Là.
Ah,
un groupe un
pas
peu pas mal.
Ça.
Et après, Allemagne, Pays-Bas, mais sinon, après, il n'y a rien de.
Non, rien pas de terrible. Hein. Je sais pas, moi, je regardais que les Coupes du Monde maintenant. L'Euro, c'est plus intéressant. Le ballon d'or, donc on l'avait dit, Modric qui sera certainement ballon d'or, s'annonçait un peu partout. Oui. Voilà, et ben encore une fois, on passe à côté, mais j'y réfléchissais ce matin, est-ce que c'est quand même pas mérité pour Modric qui a quand même fait une saison exceptionnelle? Oui, on s'en fiche, mais bon, on en parle.
On dit on s'en fiche, quand même tous les lundis on en parlait, savoir c'était Griezmann, Mbappé, machin. C'est pas un scandale que Modric l'ait au vu de la saison, enfin. Pour moi, mon avis perso. Par contre, même si c'est pas un scandale, je comprends pas que ce soit un Français qui a gagné beaucoup de trophées cette année, qui ne l'est pas. Quoi. Mais bon. Bref.
Non, mais Varane a gagné quand même un trophée énorme par rapport à Modric.
Et oui,
ils jouent dans le même club, donc ils ont le même palmarès.
On le fait plus au palmarès. On le fait un peu au palmarès, mais surtout au talent du joueur aussi.
Ouais, mais d'accord. Mais si Modric est là, pourquoi tu l'as jamais donné à Xavi ou Iniesta?
Tu peux pas dire.
Parce qu'ils l'ont donné au talent de Ronaldo.
Si tu le fais au talent, tu le donnes à Ronaldo ou Messi encore cette année.
Tu peux pas dire que
même s'ils ont rien fait, ils sont là-dessus.
Tu peux pas dire que Varane n'a pas de talent. Après, Modric, c'est un beau joueur pour moi, mais. C'est pas un joueur qui va rester dans la légende du ballon, à mon avis.
Hein. Bon,
il joue bien, voilà. C'est vrai qu'il est tout petit, tout gringalé, mais. Non, mais c'est vrai c'est pas Maradona, c'est pas Messi, c'est pas. C'est même pas.
C'est pas Mathias Sammer.
Xavi, bon, voilà.
Non, après, c'est pas Cannavaro.
Il le vole pas non plus, mais bon, ouais, c'est un peu bizarre.
Déjà, pour moi, la première erreur du ballon d'or, c'est de le mettre sur une année civile et pas sur une année sportive.
Oui.
Parce que Modric, depuis septembre, il est dans le genre transparent, il est pas mal.
Ouais, il est pas mal. Varane aussi.
Oui, non, mais oui,
Mbappé aussi.
C'est pour ça.
Griezmann aussi, alors je le donne à qui?
Mets sur une année,
c'est tout. Hein.
Victorino Hilton.
Sur une année sportive, il faut le mettre.
Delor. Andy Delor.
Il y a eu Bocano aussi.
On peut pas parler sérieusement.
Et Bounassar aussi.
Et il y a Bounassar.
Et Ruben Aguilar. Allez, on peut conclure là.
Allez, vite. Le championnat d'Europe de handball féminin, bravo. Les Bleus se reprennent et gagnent 30-21 face à la Slovénie. Le basket a validé son billet pour le championnat du monde en Chine, 31 août, 15 septembre. Portland n'est plus premier. Noah retrouve un club. J'allais dire Yannick, mais non, c'est pas Yannick. C'est Joachim qui retrouve un club. Et enfin, le biathlon. Nico, tu voulais en parler? Il y a plus de temps, on en parlera la semaine prochaine.
Victoire de l'équipe de France à Roulet Mixte.
Allez, ciao, la semaine prochaine. Bye.
C'est les Street John au couloir numéro 2. Allez, c'est parti pour les Street John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquet. Je ne dis rien.
La c'est France le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière. Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
Du taxi apéro.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Du taxi apéro.
Allez Louis.